Stéthoscope, l'émission qui prendra votre pouls. Stéthoscope, l'émission à l'écoute de votre santé. Médecins, spécialistes répondront en direct à vos questions.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans votre espace santé, Stéthoscope, comme tous les samedis, de 10h à 11h en direct sur Alger Chaîne 3. À la réalisation, Jawida Zekat, Samir à la console technique, Tahar à la régie d'antenne, Céline Labou pour vous accompagner au micro jusqu'à 11h. Nous levons le voile aujourd'hui dans cette émission sur un fléau de santé publique qui constitue un défi sanitaire, social et sécuritaire de par le monde, y compris en Algérie. Il s'agit de la consommation des drogues sous toutes ses formes. Cannabis, psychotrope, drogue dure, de plus en plus de jeunes s'adonnent à ces substances. Les conséquences sont malheureusement dramatiques au plan sanitaire, social et économique. Face à cette situation, l'Algérie renforce son arsenal juridique de plus en plus et de prévention. On reviendra notamment dans cette émission sur la nouvelle loi janvier relative au dépistage obligatoire à l'embauche, une mesure vivement saluée. Allez, je vous en dirai pas plus. Je reçois en direct dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir professeur Atika Chirouat, elle est chef de service médecine légale à l'hôpital de Rouiba. Elle est avec nous en direct, professeur, bonjour.
Bonjour Célia, heureuse d'être là avec mes chers collègues.
Ça fait longtemps.
Merci de m'avoir invité, oui, de la pathologie naturelle à la pathologie toxique.
Merci d'être avec nous, merci de répondre à l'invitation également avec nous dans les studios d'Alger Chaîne 3. Professeur Amina Amalou, elle est professeure. Elle est professeure spécialiste en psychiatrie à l'hôpital de Blida, à la dictologie, c'est ça professeur. Oui. Merci d'être avec nous. Un bonjour au professeur Bourban qui n'a pas pu être avec nous dans l'émission aujourd'hui. Avec nous également dans cette émission, docteur Salem Smaïl, il est spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital Al-Qattab. On vous dira pourquoi il est avec nous aujourd'hui, pour dire que les drogues, c'est quand même une maladie qui se répercute franchement au plan sanitaire. On reviendra sur les détails dans quelques instants. Docteur, bonjour.
Bonjour, madame.
C'est la première fois que vous passez avec nous dans l'émission.
Oui, c'est la première.
Allez, très bien. Merci d'être avec nous. Merci de répondre à l'invitation. Merci à vous, chers auditeurs, de nous prêter attention à chaque fois dans cette émission et sur Radio Alger Chaîne 3. Vous pouvez nous contacter au 021 48 15 15, 021 48 15 15.
Stéthoscope. Toujours là pour vous accompagner.
Stéthoscope, l'émission qui prend le pouls, l'émission qui vous accompagne tous les samedis pour parler santé. Hein. Faites attention à votre santé, à votre bien-être. Et c'est aussi l'objectif de l'émission Stéthoscope. Je le disais au début de mon intro, nous parlons aujourd'hui de toxicomanie, malheureusement. Hein. On n'en parlera jamais assez. Et c'est, vous savez qu'il y a une lutte aujourd'hui acharnée contre ce fléau. Hein. C'est pas un problème de santé publique, c'est un fléau de santé publique qui touche notamment notre pays, nos jeunes malheureusement. Et c'est pour ça qu'on organise cette émission aujourd'hui pour parler de la prise en charge, mais surtout pour parler de prévention. C'est ça, n'est-ce pas, professeur Amalou, vous qui êtes spécialiste en psychiatrie à l'hôpital Blida. On parle de fléau et pourquoi on parle de fléau? C'est le nombre de plus en plus important de jeunes, hein. Pas seulement de jeunes. Beaucoup s'adonnent justement à ces substances, mais on va dire les jeunes sont plus importants. Le chiffre des jeunes est en nette croissance, n'est-ce pas, professeur?
Tout d'abord, bonjour. Merci pour cette invitation. Donc, le fléau, oui, c'est un fléau. C'est un fléau mondial. Donc, la polyaddiction, la polytoxicomanie, on fait appel à la polytoxicomanie. Donc, c'est le produit. La polyaddiction implique aussi les comportements. Ce n'est pas uniquement l'addiction aux substances. C'est l'addiction au jeu, donc l'addiction à certains comportements. Donc, si on parle de polyaddiction concernant les substances, oui, c'est un fléau mondial. Et chez nous, ce fléau est largement répandu depuis quelques années. Actuellement, nous assistons donc à une augmentation de la consommation et de l'âge des personnes qui consomment. Nous observons des consommations chez des très jeunes, débutant même donc à l'âge de 11 ans, 10 ans. C'est une consommation qui a complètement changé ces dernières années et qui touche une tranche d'âge très très jeune.
Professeur, je voulais justement soulever un problème avec vous. En fait, quand on parle d'addictologie, quand on arrive à l'hôpital Blida, c'est qu'on est addict. C'est ça le problème, non?
Oui, au sein de notre service de psychiatrie addictologie, anciennement appelé service de lutte contre la drogue et la toxicomanie, qui a été donc créé en 1996. Qui a vu le jour en 1996 et qui continue donc son activité à nos jours. Et effectivement, donc ce sont des patients qui sont adressés de toutes les wilayas de l'Algérie. C'est le service de référence dans notre pays. Nous recevons toutes les wilayas et toutes les catégories de patients. Bien sûr, donc les mineurs sont souvent accompagnés de... Nous exigeons que les mineurs soient accompagnés d'un tuteur, mais nous recevons toutes ces catégories de population.
C'est quoi le profil, professeur?
Le profil, vous avez tous les profils sont dressés dans notre consultation. Vous avez donc les personnes qui sont sans activité. Actuellement, nous avons le profil des universitaires, des étudiants universitaires, des personnes fonctionnaires, c'est-à-dire des fonctionnaires, des personnes qui travaillent. On pourrait dire que il y a eu quand même un changement de consommateur, du profil de consommateur. Il y a quelques années, les consommateurs c'était donc des consommateurs des milieux démunis, de conditions sociales
difficiles,
précaires.
Oui.
Mais actuellement,
on
parlait de délinquance. Ouais. C'est un terme que je n'aime pas trop, Actuellement, ce sont des catégories quand même studentines, ce sont des universitaires et ça, c'est alarmant. Voilà, ouais, c'est alarmant.
C'est alarmant. Et justement, professeur, je voulais juste dire aujourd'hui, est-ce qu'on s'arrête à une consultation ou il y a une hospitalisation parfois dans les... on récupère certaines personnes, justement.
Bon, la prise en charge ne s'arrête pas à une consultation. En addicto, le circuit est très long. Ouais. La prise en charge, elle est globale. Elle est multidisciplinaire. Tout d'abord, donc, l'addiction, qui est une maladie, est considérée comme une maladie cérébrale du cerveau, parce qu'elle va donner des effets néfastes. Donc, nous aurons des troubles psychiatriques associés, tels que l'anxiété, la dépression, des troubles du comportement. Et c'est une prise en charge qui est globale. Elle est d'abord médicale, certainement. Elle est aussi psychothérapique et sociale. Oui. Parce qu'il faudrait, même après l'hospitalisation, c'est une hospitalisation de 21 jours. C'est pas à travers une hospitalisation qu'on peut régler la problématique de ces patients. La prise en charge, elle est multidisciplinaire. Donc, elle implique la famille. Oui. Elle implique l'entourage. Toutes les personnes sont impliquées dans la prise en charge de l'addict. Et c'est une prise en charge à long cours. Oui. Ce n'est pas une prise en charge ponctuelle. C'est pas à travers une consultation ou deux consultations ou une hospitalisation. C'est un suivi au long cours.
Il faut tenir le coup.
Il faut tenir le coup.
Très bien. On y reviendra dans un petit moment avec vous, professeur. Moi, je me tourne vers professeur Cherouata Atika, qui est chef de service médecine légale à Rouiba. Pourquoi elle est avec nous? Professeur, elle est là. Elle est en médecine légale, donc elle est témoin. Je vous invite en tant que témoin, mais aussi en tant que professionnel de santé, puisque vous découvrez parfois, malheureusement, c'est déjà trop tard, n'est-ce
non,
pas?
Non, on ne découvre pas parfois, on découvre énormément ces cas. Si on retrouve des sens, malheureusement, la toxicomanie, elle est à la croisée des différentes spécialités, l'infectieux, la neuro, la psychiatrie, la pneumo, la cardio et malheureusement la médecine légale. Et là, ce qui nous interpelle en médecine légale, c'est pas seulement la recrudescence de ces décès, c'est là suite à des cas d'overdose, situation d'overdose, mais c'est ce décès-là qui fait suite à une polyconsommation, d'accord, à ce cocktail que le toxicomane prépare, voilà, et qui donne des dégâts dans les organes et qui aboutit au décès. Ça, c'est la première cause, vraiment, c'est cette polyconsommation. C'est pas censé, on n'arrive pas à une dose létale pour mourir. Il suffit qu'on mélange le tout et on peut aboutir au phénomène donc de la mort. La deuxième chose qui nous interpelle aussi, c'est cette recrudescence aussi, comme l'a dit le professeur Amaloud, cette consommation, c'est le jeune enfant, donc entre 10 ans et 16 ans, et qui utilisent des drogues à la portée de tout le monde, qui sont pas chères, qui est le gaz.
Qui d'accord. sont accessibles, oui.
Voilà, on sniffe le gaz, on inhale les gaz, d'accord, gaz de briquet, gaz de propane, d'accord, gaz hilarant, bien sûr, et c'est à la portée de tout le monde, on peut l'acheter, il faut 50 dinars pour acheter un briquet, d'accord, et on a l'effet qui est rapide, d'accord, et qui disparaît aussi rapidement, et on a envie d'en consommer encore, et malheureusement, ça peut aboutir à la mort. Donc, c'est important. La pathologie toxicologique aussi, elle se retrouve en médecine légale parce qu'on le reçoit comme étant, suite à des rixes, victime de violence et auteur aussi de violence, d'accord ? Comme auteur de crimes, des consommateurs.
Il y a des
d'accord.
autopsies
Oui, il y a beaucoup d'autopsies. Ça. Ouais. Ben, c'est un quart d'autopsie, c'est les autopsies faisant suite à des états toxiques. Mais malheureusement, ce qu'il y a aussi, c'est des autopsies pour de morts naturelles chez les polyconsommateurs, consommateurs chroniques qui font des mort subite à l'âge de la quarantaine, c'est parce qu'ils étaient jeunes, de consommateurs, que les effets de la drogue ont touché leurs poumons et leur cœur, et ça donne plus tard de mort subite comme ça.
Des fois, on comprend pas, justement, aujourd'hui, on dit qu'il y a eu mort subite pour telle ou telle personne, mais on ne comprend pas qu'il s'agit bel et bien parfois de drogue. Est-ce que les parents le découvrent après, professeur ou l'entourage?
Généralement, quand on fait l'interrogatoire avec les parents, on a toujours ce passé de consommation de plusieurs drogues, d'accord?
Oui.
Après, bien sûr, nous agissons sur réquisition automatiquement, nous sommes tenus au secret médical. Bon, les parents, ils nous rapportent cet état de consommation. Le rapport, il est chez le procureur, donc il est déposé au tribunal, et les parents, bien sûr, ils peuvent avoir les résultats de cette autopsie donnée, bien sûr, par monsieur le procureur de la République et pas par le médecin légiste.
Ouais.
D'accord. Et parfois, c'est, les parents découvrent.
Ils le savent déjà que leur fils est consommateur. Ils le savent déjà.
Mais ils le
pas. Soit qu'il décède et c'est la forme aiguë, bien il fait un surdosage ou là il fait un cocktail. Soit alors c'est un consommateur chronique. Il y a des lésions déjà cardio, comme les cardiopathies hypertrophiques, etc. Des lésions donc cérébrales. Et là, suite à une pathologie, il est là dans le temps. Il commence à faire ces pathologies que font tout le monde, la pathologie rénale, la pathologie cardiaque, l'hypertension. Et parce qu'il a un état pathologique antérieure toxique, que ça fragilise son cœur et il peut mourir rapidement, si vous voulez, plus rapidement quelqu'un d'autre qui n'a pas consommé la drogue. Voilà.
Oui. Merci, professeur. On va revenir sur ces détails dans quelques instants. Et avant de faire intervenir notre invité, docteur Selem Smaïl, qui est médecin spécialiste, maître assistant maladies infectieuses à l'hôpital Al-Qatar. Si on vous a invité aujourd'hui, c'est vous dire aussi que la maladie, que les drogues, toutes ces drogues que nos jeunes et même les plus grands consomment, s'ils consomment aujourd'hui ces drogues, il y a des répercussions forcément. Hein. Et parfois, les conséquences, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont dramatiques puisqu'elles sont pourvoyeuses aussi de maladies et de... Et parfois, les drogues injectables aussi peuvent donner des maladies comme le VIH et l'hépatite C, l'hépatite B, n'est-ce pas ? Je vous laisse le soin d'en dire plus.
Bonjour madame et bonjour les auditeurs de la chaîne Taroua. Donc effectivement, comme il vient d'être dit, que la toxicomanie par voie injectable, donc l'usage de drogue par voie injectable, a connu dans notre pays donc une progression, une nette progression. On le sent dans nos consultations donc de maladies infectieuses parce que nous recevons beaucoup de jeunes donc usagers de drogue qui font des infections donc suite transmises par la voie, plus souvent la voie injectable, ou bien aussi par l'usage de la drogue par voie nasale. Donc lorsqu'ils sniffent, c'est pratiquement la même chose avec la voie injectable. Ils peuvent donc s'infecter soit par donc des virus ou bien des bactéries. Donc on a plusieurs pathologies infectieuses qui peuvent être transmises par la consommation de drogues injectables. On a les maladies infectieuses virales, donc notamment la plus fréquente c'est l'hépatite C, mais on a aussi l'hépatite B. Et ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est l'augmentation des infections par le VIH. Donc chez cette population donc d'usagers de drogue par voie injectable, on reçoit beaucoup de cas de plus en plus de jeunes qui sont infectés par le VIH, par la consommation de drogue injectable. Mais on a aussi d'autres pathologies infectieuses qui sont transmises par l'usage donc des drogues, notamment donc parce que cet usage généralement s'accompagne donc d'utilisation donc d'échange de seringues, d'aiguilles, ouais, de coton, etc. Tout le matériel en fait partagé utilisé pour la préparation et la consommation peut entraîner donc des infections. On a aussi des abcès au point d'injection, des dermo-hypodermites nécrosantes au point d'injection, et on peut également avoir donc des pneumopathies bactériennes souvent difficiles à traiter. Et le plus grave, c'est qu'on a des endocardites infectieuses donc qui nécessitent des hospitalisations, une prise en charge complexe, avec le plus souvent donc le recours à la chirurgie cardiaque. Donc souvent ces malades sont pris en charge difficilement parce qu'en plus de leur infection donc de cardiaque, endocardite, ils ont aussi des infections à VIH, des infections à VHC, ce qui rend plus complexe donc leur prise en charge. D'ailleurs, il faudrait peut-être penser, réfléchir à faire des circuits pour la prise en charge des endocardites sur toxicomanie.
Oui, vous parlez d'un point important, docteur Smaïl. Je pense que les infectiologues, justement, tiraient la sonnette d'alarme par rapport à cette corrélation directe entre la consommation des drogues, des drogues dures, ou le fait de sniffer, ou les drogues injectables, et l'apparition du VIH. Quand même, c'est grave. Je ne pense pas que ces jeunes le sachent. Ils le font comme ça, pour le plaisir de le faire, pour faire comme les autres.
autres. Et puis, on tombe dans les addictions. Les addictions sont dangereuses sous toutes leurs formes. Hein. L'addiction aux écrans, l'addiction aux drogues, l'addiction... Toutes les addictions sont dangereuses, justement. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme. Et ces jeunes-là, et quel est le cas qui vous a le plus frappé, dites-nous, docteur Salem, docteur Smaïd, par rapport à cette... c'est une tragédie parfois pour les parents, parce que on ne pense pas qu'une personne qui se drogue peut avoir le VIH ou peut avoir l'hépatite C. Attention, l'hépatite C, ce n'est pas une maladie qu'on peut négliger. L'hépatite C, quand elle n'est pas prise en charge à temps, ça peut justement donner un cancer du foie à la longue. C'est pour ça qu'il faut une cirrhose. C'est pas qu'il faut aujourd'hui essayer de prévenir, c'est la prévention. Et je pense que vous avez reçu,
on reçoit donc quotidiennement, je dirais quotidiennement, sans exagérer, des usagers de drogue par voie injectable qui viennent donc en consultation. Ils sont donc adressés par le CDV, le centre de dépistage volontaire. Généralement, ils sont dépistés soit parce qu'ils ont entamé une démarche de sévrage, donc ils passent par les centres d'addictologie. Oui. Là, ils leur demandent des sérologies de manière systématique. Et lorsqu'ils découvrent qu'ils sont infectés, que ce soit par l'hépatite C ou la VIH, ou bien parfois, ce qui est dramatique, les deux, ou bien les trois infections, triple infection. Donc on a VIH, C, VIH et hépatite B. Donc, ils les adressent à notre niveau et on entame donc la prise en charge. On a eu beaucoup donc de cas dramatiques. J'ai un cas qui m'a vraiment marqué. Il y a eu donc une maman qui est venue. Donc, elle a eu deux de ses enfants jeunes décédés l'un après l'autre suite donc à des infections, des endocardites.
Oui.
Ben, ils ont fait des endocardites très très sévères et puis donc ils ont fait aussi simultanément des infections à VHC et VIH. Donc on a eu donc c'était vraiment un cas très dramatique, donc difficile à vivre. Mais donc quotidiennement
plus
on a
plus de garçons que de filles.
Oui, beaucoup plus de garçons que des filles. Mais
prédominance masculine.
Il y a une prédominance masculine, mais on constate que de plus en plus on commence à avoir donc
des filles
consommatrices. Plus de jeunes nos invités donc ils l'ont signalé, donc maintenant on commence à avoir donc des gens qui sont donc bien, ils sont donc ils sont pas issus d'un milieu précaire, donc
voilà toute catégorie. C'est plus un cliché.
Exactement,
en fait
qui sont instruits, oui. qui sont bien intégrés en société, donc
qui ont de bons postes.
Exactement.
Oui.
Donc la toxicomanie par voie injectable, elle touche tout le monde et elle a des conséquences néfastes sur la santé. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut sensibiliser autour de ce fléau pour endiguer ce problème majeur.
Merci docteur Smaïd pour toutes ces informations. Il est 10h26 sur Alger Chien 3. Nous parlons de la consommation de drogue chez les jeunes, pas seulement chez les jeunes, chez tout le monde en fait. Si vous avez un problème, c'est avec vos enfants, et si votre enfant consomme ou vous consommez ou votre entourage, vous pouvez nous appeler au 021 48 15 15. Les spécialistes ici présents feront un plaisir de répondre à vos questions.
Stéthoscope. Toujours là pour vous accompagner.
Nous avons au bout du fil Rachid qui nous appelle au 021 48 15 15. Rachid nous contacte depuis Dalbaïda. Rachid, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ça va, bonjour. Rachid?
J'ai été en voiture et j'ai...
Oui.
Écoutez attentivement les différents propos. Je salue les médecins qui sont avec vous. Oui. Mais quoi dire sur ce sujet crucial, ce sujet, quoi dire, quoi laisser?
Oui.
Quoi dire, quoi laisser? Il suffit de...
Si vous avez l'air très touché.
Les divers quartiers de la capitale, et vous allez voir les gangs, le mot n'est pas assez fort. Les gangs qui sévissent et qui vendent et qui achètent.
Oui. Les dealers, on les appelle les dealers.
Donc moi, je vais laisser le soin aux médecins de parler de ce qu'ils doivent dire. Mais
vous,
moi, je
vous avez l'air très touché par ça, dites-nous.
Parce que je sais que tout le monde veut intervenir, c'est un sujet, c'est le sujet du jour en Algérie.
Pourquoi vous intervenez, pourquoi vous avez voulu intervenir à tout prix, Rachid?
J'habite dans un quartier où le soir je suis dans mon balcon et je vois des situations.
Ah oui, c'est terrible. Hein.
Donc c'est pour ça que je voulais intervenir. Je vais intervenir sur deux volets.
Oui, allez-y.
Le premier volet, il faut être vraiment courageux pour l'aborder. Pourquoi on est arrivé là? Je pose la question, je ne veux pas de réponse. J'aborde le deuxième volet. Celui-là, il est très intéressant. Comment y remédier? Il faut y remédier. Déjà, d'après un ami qui est médecin, il m'a dit que pour les contrats d'embauche, on exige...
On va revenir sur la loi, tout à fait. Il y a une loi.
Mais devant cet état où le plombier est devant un tuyau qui fuit partout, quoi réparer? Donc, il faut une dissuasion. Il faut que les pouvoirs publics sévissent. Le Brésil a vécu la même chose que nous. Aujourd'hui, c'est un pays émergent, c'est des gens qui fabriquent des voitures, des médicaments. Donc pourquoi pas nous? Nous sommes une jeune nation.
Vous savez, il y a l'évolution de la société aussi.
Nous ne laissons pas ce problème prendre des proportions alarmantes. Déjà que c'est une spirale infernale.
Oui, tout à fait.
J'ai écouté le médecin qui est arrivé, ça donne des cancers, il se pique par là, cette drogue, c'est terrible, c'est terrible.
Ça donne aussi le VIH, le sida, les maladies.
Les pouvoirs publics doivent faire un conseil des ministres exprès pour ça. Il faut, c'est une urgence.
Ça fait partie des priorités des pouvoirs publics et l'arsenal juridique s'est durci.
Arrête le développement.
Oui, c'est vrai que notre jeunesse est menacée aujourd'hui. Merci Rachid, merci de nous appeler.
Merci. Je salue les médecins qui sont avec vous.
Merci à vous Rachid d'intervenir. Merci de nous appeler au 021 48 15 15. Nous allons prendre un autre appel de Achour qui nous appelle de Boroba. Achour, bonjour.
Bonjour madame.
Allô? Oui, bonjour là, Achour.
Bonjour, ainsi qu'à vos invités et les auditeurs qui nous écoutent au monde entier maintenant.
Oui, Achour, oui.
Donc, on atterrit à son acte dans l'âme. Vous êtes avec moi?
Oui. Allez-y, Achour. Soyez bref.
Maintenant, il faut passer à la prévention en général.
Oui.
Vous avez cité un point qui est très important. Maintenant, à l'embauche, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, il y a une loi de janvier 2026 sur laquelle on va revenir. Merci beaucoup, Rachid.
Il faut généraliser et passer au dépistage, au passage de permis. C'est très important. Et contrôle de dépistage au niveau des routes. Ainsi que l'État doit contrôler au niveau des écoles primaires.
Oui. Merci Achour. Merci. Il y a beaucoup d'appels au 021 48 15 15. Achour est parti. Voilà, nous allons prendre Samia au téléphone. Samia, bonjour.
Bonjour madame. Voilà, je voudrais intervenir.
Oui, bien sûr.
Pour un peu répondre à cette préoccupation, pour vous dire que les parents souffrent énormément, qu'on culpabilise, qu'on ne sait plus quoi faire. Et le problème, c'est que ça dure depuis des années et qu'à ce jour, l'État n'a pas encore trouvé de solution à part mettre les gens en prison et à part quelques centres qui sont sur la plupart sur Alger, il n'y a pas de prise en charge correcte et objective. Parce que là, je vous assure que le fait qu'ils vous disent l'État doit sévir, et effectivement, l'État est en train de sévir. Tous les jours, il y a des jeunes qui rentrent en prison. Tous les jours, le problème, c'est qu'ils sortent et ils ne sont pas guéris. Ils sortent, moi j'ai vu, pas plus loin qu'il y a une semaine, je rencontrais un ancien voisin qui était en prison et me racontait, alors qu'il était... je peux le dire, c'était un dealer. Et il prenait énormément. Il me dit, je prenais jusqu'à 10 cachets par jour. Et une fois en prison, il m'a dit, j'étais très très malade. Et alors, il est sorti, et sa maman vient de me dire, il vient de rechuter. Là, elle ne sait plus quoi faire.
Justement, pourtant, on va revenir sur...
Sévir est là. Mais deux ans après, ils sortent, ou trois ans après, la solution, c'est la prise en charge. Les jeunes ont un vide terrible. Mmh. Ils n'ont pas de quoi s'occuper. Quand ils sortent de prison, il n'y a personne qui leur tend la main. Il n'y a aucune association. Il n'y a pas de prise en charge culturelle. Il n'y a pas de prise en charge par le travail. Il n'y a rien. C'est le vide et il rechute parce qu'il retrouve le quartier. Il retrouve le vide. Le vide qui m'a parlé au Léoma. Il n'y a pas le vide qui s'est l'hadid.
Oui. Merci Samia. Merci pour votre témoignage. On va revenir justement sur la prise en charge et surtout sur le durcissement aujourd'hui de l'arsenal juridique. Le président de la République en a fait justement une des priorités pour lutter contre ce phénomène. Nous allons prendre Imed qui est au bout du fil. Imed nous contacte depuis Sétif. Imed, bonjour.
Madame, messieurs, bonjour. Bonjour à vous.
Merci Imed de nous appeler au 021-48-15-15.
Bien, merci pour cette belle émission et ce beau partage d'informations et qui vont participer, je pense, énormément à éveiller beaucoup de jeunes peut-être, notamment par rapport aux maladies, notamment par rapport aux infections.
Les parents qui doivent sévir aussi, contrôler, voir leurs enfants ce qu'ils font, les faire entrer dans des... comme disait un instant Samia, elle a un peu raison sur un petit peu la prise en charge, ne pas... on dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Il faut pas laisser son enfant rien faire. Hein. C'est pas que les études, hein, que on peut ne pas réussir dans ses études, mais il y a des formations, il y a la formation professionnels, il y a les formations à la carte et tout qui sont très bien. Il faut aujourd'hui occuper ses enfants. Voilà, il faut occuper.
Je rejoins l'avis, madame. Oui. Néanmoins, malheureusement, la tranche de personnes et de la société touchée par par ce phénomène, si on peut se permettre, c'est une catégorie qui dépend plus de ses parents. En général, c'est des jeunes qui sont largement indépendants et depuis une belle durée. Néanmoins, moi, ce que je pourrais proposer, c'est que majoritairement, ces dépendances commencent par des dépendances médicamenteuses. Oui. Et des dépendances médicamenteuses qui sont malheureusement prises en charge par la caisse, que ce soit la CNAS ou la CASNOS. Donc, c'est des médicaments qui sont remboursables. Et je pense que ça encourage largement cette prise.
Qui sont surtout accessibles, oui.
Voilà, c'est l'accès et l'accessibilité de ces médicaments pour ces... peut-être potentiels patients au départ qui deviennent des dépendants après, par la suite. Et moi, si j'ai quelque chose à proposer, une solution à proposer, c'est une rigueur au niveau de ces caisses-là. Oui. Donc, dès qu'il y a renouvellement, dès qu'il y a des traitements suspects, je propose qu'on suspende d'emblée ces traitements-là pour ces patients et pour limiter justement cet accès aux médicaments et qui provoque des dépendances et ouvre des portes pour des dépendances plus graves, notamment les drogues dures et ainsi de suite. Je pense que nos chers médecins qui sont au studio avec vous pourront confirmer cela. Oui. Et je pense que c'est une porte qui ouvre beaucoup de problèmes qu'il faudra vraiment strictement...
Plus de contrôle, plus de rigueur, justement, dans la distribution.
Comme vous allez mentionner, par rapport aux lois de recrutement et...
Oui,
et
l'embauche. Voilà. On va revenir sur cette loi. Merci beaucoup, Imed. Merci de nous avoir appelé de Sétif au 021-48-15-15. Nous allons prendre un autre appel. Samia nous contacte depuis Béjaïa. Samia, bonjour.
Et bonjour, madame.
Oh, c'est pas Samia. C'est pas du tout la foi de Samia. Est-ce que vous pouvez éteindre votre transistor, s'il vous plaît?
Samir de Béjaïa.
Oui, madame.
C'est pour remercier M. Rachid Dalbaïda, que je ne connais pas.
Oui.
Qui a, en deux questions, il a exposé votre débat. Voilà, il a tout englobé. Je remercie beaucoup, c'est tout. Merci, madame.
Merci à vous, merci Samuel. Merci de nous appeler au 021-48-15-15. Nous parlons aujourd'hui de la toxicomanie, des personnes qui s'adonnent à ces substances dangereuses, qui ont une répercussion, malheureusement, des conséquences dramatiques sur la santé, la société, l'économie aussi, puisque c'est des sommes colossales qui sont injectées justement pour la prise en charge de ce type de pathologie qui n'est pas toujours pour l'addictologie aussi. Quand on est addict, c'est malheureux. Les parents aussi doivent sévir. Déjà qu'il y a déjà l'État qui met les moyens pour cela. Il y a eu un durcissement de l'arsenal juridique. Ça ne fait que se durcir. C'est très bien. Et aussi, n'est-ce pas, professeur Chérois, tu voulais ce soin de parler. Vous qui êtes chef de service médecine légale, il y a la loi de janvier 2026 qui justement est venue pour durcir un petit peu ces sanctions pour c'est une forme de prévention, c'est une mesure on va dire préventive.
Oui, c'est un décret exécutif. Nous avons la loi de juillet 2025 qui a imposé dans le dossier de candidature pour travail un certificat ou bien des analyses négatives. Voilà, ça fait partie déjà d'un dossier d'embauche. Donc, on doit passer à un laboratoire. Le décret de 2026, il a bien expliqué ça. Des laboratoires qui vont être désignés, d'accord, pour faire ces analyses-là. Il y a un code QR, bien sûr, pour vérifier l'identification de celui qui a donné son sang. Et là, c'est exigé que les prélèvements soient négatifs. Maintenant, le malade, lorsqu'il se donne à une cure, il peut quand même repostuler pour ce poste de travail. Maintenant, on touche aussi, donc, le milieu professionnel, et c'est bien, et c'est très bien parce que, la toxicomanie, c'est aussi raison de traumatisme au milieu de travail. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un tel ou tel travail parce qu'ils sont consommateurs. Il y a un danger pour eux, il y a un danger pour le malade. Oui. Le milieu éducatif aussi n'est pas épargné. Donc maintenant, on va penser aux enfants par des dépistages réguliers, bien sûr. Donc tout est codifié dans le décret de 2026. Le problème aussi de l'information, ça, il faut réellement la préservation du secret médical, on doit être au point sur ce paramètre important. C'est une donnée personnelle et donc on doit travailler sur ça pour commencer. Il y a certaines sociétés qui ont commencé déjà, mais il faut vraiment travailler sur ça, sur la préservation des données personnelles. C'est pas facile d'être informé. C'est un dossier qui est dossier d'embauche. Qui va demander ça? La médecine du travail? Où est-ce qu'il sera classé? L'anonymat? Je sais pas. Donc, il faut travailler sur ça.
Je me tourne vers vous, professeur Amalou, vous qui êtes spécialiste en psychiatrie à l'hôpital Doc France Fanon à Blida, on parle d'une unité d'addictologie. Dites-nous, ça reste une maladie honteuse, professeur, pour les parents, pour celui qui vient. Alors, parfois, il revient pas parce qu'il vient sous la pression, j'imagine, de parents. Mais il faut dire que quand on parle de prise en charge, on fait pas les choses comme ça. Hein. Moi, je pense qu'il y a des résultats, hein, professeur.
Ben, heureusement.
Oui.
Heureusement. La plupart des patients, effectivement, donc nous sommes un service de cure libre, qui veut dire que le patient qui est admis au sein du service de psychiatrie addicto de France Fanon, et ils viennent avec leur volonté, leur propre volonté, mais sinon ils ne sont pas admis. C'est-à-dire qu'il faut travailler la motivation de ces patients. Ils viennent souvent accompagnés de leur famille, et quand ils sont accompagnés de leur famille, nous essayons de travailler la motivation pour les prendre en charge dans le circuit de soins. Mmh. Et des résultats, bien sûr qu'il y a des résultats, heureusement, sinon toute cette labeur
pour laquelle nous sommes... Oui, je sais que ça travaille très bien dans votre service. Et on vous a souvent envoyé des patients qui s'en sortent très bien. Félicitations à votre service, professeur Bourbon, à toute l'équipe travaille. Oui,
voilà, merci. Oui. Merci. Voilà, oui. C'est un travail de longue haleine.
Oui, de longue haleine. Merci pour vos appels. Le standard explose à Alger Chien 3. Beaucoup d'appels au 021-48-15-15. Ahmed nous contacte depuis Constantine. On va quand même prendre les appels pour qu'il n'y ait pas de frustration dans cette émission. Ahmed nous contacte depuis Constantine. Ahmed, bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va, Ahmed?
Ahmed, merci. Et vous?
Alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Je vous appelle concernant le sujet de la toxicomanie Algérie. J'aurais juste envie de vous donner deux points.
Oui.
Par rapport à la toxicomanie. Premier point, c'est que s'il n'y avait pas assez de disponibilité de ces drogues-là, les gens auraient du mal à se droguer. Mm-hmm. D'accord. Le deuxième point le plus important, c'est la loi et la législation concernant les drogues.
Oui.
Si on appliquait, comme beaucoup de pays, il y a 36 pays dans le monde qui condamnent à mort pour tout trafic de drogue, on n'aurait pas ce problème. L'Indonésie, l'Arabie Saoudite, etc. Oui. C'est juste pour ce point-là que je voulais intervenir.
Merci beaucoup.
Et une législation beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sévère avec des condamnations à mort. Monsieur Gibou, des tonnes et des tonnes et des tonnes de drogue qu'ils vendent et revendent et ils vont prendre quelques mois à se nourrir aux frais du contribuable.
Oui, mais il faut savoir que tout ce qui vient aussi des frontières, attention, hein, il y a un contrôle et c'est des gens qui sont justement arrêtés et punis, hein, pour ça. Attention, hein, il y a beaucoup de choses qui se font, hein, de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Ahmed, pour votre appel. Nous allons prendre un autre appel de Rania qui nous contacte depuis la wilaya de Chlef. Rania, bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va, Rania?
Oui, alhamdoulilah. Et vous allez bien?
Alhamdoulilah, oui.
Alhamdoulilah. Alors, j'aimerais bien de comprendre la situation de maman, si possible. J'aimerais bien de parler avec le professeur.
Oui. La situation de qui?
Comment?
Vous vouliez poser la question au professeur par rapport à quoi?
Par rapport à maman.
À votre maman?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a, votre maman?
En fait, maman, elle a souffert un petit peu avec mon père il y a longtemps.
Oui.
Et maintenant, elle a tout ce qu'elle a besoin, il nous avec elle.
Oui.
Mais malheureusement, elle ne parle pas avec nous. Elle est toujours
en retrait.
Il ne parle pas. Je ne sais pas comment réagir avec elle.
D'accord. Là, c'est un autre problème, hein, Rania. Oui. C'est pas un problème de drogue. Elle ne s'adonne pas au.
Non. Non.
Non. Très bien. Est-ce qu'elle prend des médicaments? Vous l'avez vu comme ça prendre des médicaments ou prendre des... Non?
Non, jamais.
Jamais, oui. Et pourquoi elle consulterait pas votre maman? Vous l'emmenez pas chez un psychiatre peut-être pour consulter, pour l'aider un petit peu, pour sortir un petit peu de son...
Oui, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé, parce que je sais pas, est-ce qu'on doit l'amener ou non, qu'est-ce qu'on doit faire.
Très bien, ça fait rien, là c'est un autre sujet, vous pouvez laisser vos coordonnées aux antennes, Rania, peut-être qu'on va essayer de vous aider pour vous orienter, pourquoi pas. D'accord, Rania?
D'accord.
On va pas vous laisser partir comme ça, non. Laissez vos coordonnées hors antenne avec notre réalisatrice Jawida Zekat. On va essayer de faire quelque chose avec vous pour prendre en charge votre maman, pourquoi pas, hein, pour ne pas la laisser aller dans la dérive. Très bien. Nous allons prendre un autre appel. Fadel de Skikda. Allez, je crois que c'est le dernier appel. Le standard d'Alger Channel 3 explose. Comme ça, on va quand même donner quelques informations, la prévention. Fadel, bonjour.
C'est pour l'émission que vous passez chaque samedi.
Oui.
Et pour moi, la solution, elle est simple. Elle doit être radicale.
Oui.
Quitte à faire un suffrage, quitte à faire une pétition nationale, la peine de mort pour les trafiquants de drogue, la télévision détente, des millions de comprimés, il faut que le pouvoir politique prenne cette décision. Elle est facile, elle est simple. Maintenant, tous les efforts pour le développement...
Ça gangrène la société, oui.
La peine capitale, parce que même l'emprisonnement, il faut dire 10 ans, 15 ans, il n'y a pas le pactole. La peine capitale pour les drogues dures, la cocaïne, que nous sommes bien classés avant.
Malheureusement.
Je pense qu'il faut avoir le courage politique, quitte à faire un suffrage, quitte à faire une pétition nationale. Oui, c'est la simple.
En tout cas, merci.
Même Sharan, c'est valable. Même Sharan. Alors.
Merci Fadel de votre appel. C'est une émission médicale. On tire la sonnette d'alarme aujourd'hui. J'espère que les pouvoirs publics nous écoutent et j'en suis sûre. Hein. En tout cas, le ministre de la Santé est certainement à l'écoute. Il a plein de volonté et sur le plan médical, il prend en charge. Mais il y a aussi, c'est multidisciplinaire. Il y a les autres ministères aussi, le ministre de la Justice, le ministère de la Justice.
Il y a un kilo de cocaïne.
Oui.
Il y a un kilo qui est passé. Hein. Mais tous les efforts,
ouais, merci beaucoup. En tout cas, merci de votre appel, Fadel. Oui, c'est un coup de gueule. Oui, bien sûr, quand on voit que un phénomène, un fléau qui gangrène la société, on est quand même, on ne peut que exprimer sa colère, n'est-ce pas, professeur Amalou, par rapport à ça. On parle de peine de mort, on parle de beaucoup de choses,
oui,
mais en fait,
on comprend donc la colère et le mécontentement de notre population, mais pour cela, il faudrait y remédier donc aux grands axes de la prévention avant d'y arriver.
C'est ça.
à ce stade. Donc la prévention, qui est une prévention primaire.
À votre avis, en quoi consiste cette prévention, professeur Amalou? Comment prévenir ce type de fléau qui gangrène la société?
La sensibilisation, commençant par d'abord par l'information au niveau des écoles, peut-être introduire donc des séances de sensibilisation,
des cours carrément, pourquoi pas?
Oui, des cours, oui, dispenser des cours, imager, essayer de sensibiliser, expliquer, informer sur les dangers, les méfaits de ces produits, mais très jeunes. Vous savez, hein, l'éducation et la prévention, ça commence très tôt. Très tôt, comme ça, l'enfant va grandir avec la peur de ces dangers. Il va comprendre qu'il ne doit pas s'approcher, qu'il ne doit pas toucher, parce que demain, il aura ça et cela et cela. Il sera affronté à telle et telle pathologie. Donc, commençons par la sensibilisation.
La sensibilisation, docteur Smaïl, vous qui êtes spécialiste en médecine infectieuse, j'imagine que vous, quand vous voyez des cas comme ça, vous êtes désolé, parfois plus exaspéré par rapport à cette situation, puisque c'est une, je dirais, un fléau qui peut être évité.
Exactement. Donc surtout, donc ces usagers de drogue par voie injectable sont donc là, beaucoup parmi eux sont infectés par l'hépatite C, VIH, donc hépatite B. Il faut les dépister parce que tant qu'ils sont pas dépistés, donc ils vont transmettre la maladie. Donc généralement parce qu'ils consomment en groupe, donc en réseau. Donc il faut faire un dépistage massif parmi ces populations. Donc le dépistage, il est disponible, il se fait par exemple chez nous, donc l'hôpital Al-Qaitar, il y a donc un centre de dépistage volontaire, ils peuvent venir, ils peuvent venir se présenter et donc faire un dépistage. Et s'ils sont donc s'ils se révèlent infectés, donc ils seront orientés donc à l'hôpital du jour dans notre service ou ailleurs, et ils seront pris en charge. Et donc, je rappelle que le traitement de l'hépatite C, le traitement du VIH et l'hépatite B, donc, il est disponible, il est gratuit. Donc, il suffit de se dépister. Parce que tant que le patient n'est pas dépisté, n'est pas traité, donc, ces infections virales vont se propager.
Vont évoluer vers un cancer, et parfois, l'hépatite C, il faut le dire. L'hépatite C,
c'est... Il n'y a pas que l'hépatite C. Donc, l'hépatite C et l'hépatite B, c'est la cirrhose et les cancers. Oui. Et il y a aussi le VIH. Donc, le VIH, c'est l'immunodépression très sévère. Donc, le stade SIDA avec son corollaire donc d'infection opportuniste majeure, des cancers même. Donc, il faut, en attendant donc le sévrage de ces drogues, donc il faut au moins dépister ces populations et les traiter, au moins endiguer la propagation de ces infections dans ces populations.
Merci, docteur Smaïl. Professeur Chirouat, vous êtes chef de service médecine légale, vous pratiquez des autopsies, vous voyez tous les jours ces jeunes. Moi, je voulais justement que vous interveniez aujourd'hui, pas seulement comme praticienne ou professionnel de santé, mais en tant que témoin aussi, pour venir témoigner de ce que vous voyez tous les jours et qui vous marque à plus haut niveau, puisque même quand on est médecin, on n'est pas forcément insensible. On n'est pas du tout, au contraire. Mais c'est vrai que il y a aussi, on voit ça tous les jours. Oui. Donc on se dit, bon, il y a toujours, quand on voit un cas comme ça qui n'est pas, quand c'est pas le décès, on dit bon, c'est pas l'un décès, tant mieux. Mais en fait, vous voyez ça tous les jours. Et quels sont les cas qui vous ont le plus marqué, justement?
Bon, même si c'est pas un décès, c'est pas n'importe quoi.
Absolument.
Malheureusement, aujourd'hui, on est en train de recevoir des cas, des gens qui donnent leur corps pour satisfaire l'agresseur sexuellement, afin d'avoir la petite dose par manque économique. Voilà, c'est ça qui est un problème. On est interpellé aussi, je vous le dis, par le décès des enfants, par des produits toxiques qui sont à la main de tout le monde.
Oui.
Pourquoi ne pas interdire la vente des briquets pour les jeunes de moins de 14 ans? Pourquoi ne pas interdire la vente des protoxydes d'azote pour les moins de 21 ans? D'accord, ça c'est important. Beaucoup de situations m'interpellent, beaucoup de cas. La femme qui a pris de la drogue, qui était enceinte et l'enfant qui est décédé après. Le jeune de 13 ans qui a sniffé le gaz butane. Pourquoi sa grand-mère a laissé la bouteille de gaz? Il l'a sniffé après et il est décédé dans son jardin. Et beaucoup de cas qu'on voit comme ça. Le jeune qui décède à 14 ans, à 15 ans, d'accord. Et même, je reviens sur ce qu'a dit l'intervenant du CITIF, les détournements illicites de certaines substances à usage médical. Lorsque le médecin il prescrit des doses pour un malade qui a un cancer, le tramadol,
des douleurs,
autre,
oui.
Voilà, il doit surveiller le dosage. Lorsque le malade il revient, il lui dit non, prescrivez pas encore, j'en ai pas. Il doit vérifier le dosage. Normalement, il doit vérifier, ça doit tenir combien de temps, parce qu'il y a eu des cas où le toxicomane, il est membre de cette famille-là où il y a un cancer, il utilise la drogue qui est
parfois
donnée.
On recrute, voilà. sans le savoir.
Voilà, il faut vérifier. Certaines prescriptions pour des fractures douloureuses, etc., des orthopédistes. Et là, on reçoit dans le cadre de l'expertise. Moi, par exemple, je le reçois dans la pathologie séquellaire, mais je le reçois en tant que toxicomane. Alors, le tramadol...
Alors qu'il était au début, il est peut-être rentré pour une intervention. Oui.
Voilà, il ne consommait pas. Et maintenant, il y a une prescription, tramadol, l'Erica. Et voilà, il ne sait plus quoi. Donc, on insiste pour qu'il arrête. Mais là, il faut une prise en charge. Donc, on fait de lui un toxicomane. Donc, il faut faire attention sur le dosage.
Sans le vouloir,
vérifier.
Sans le vouloir.
C'est indiqué, c'est médical. Ouais. Mais il faut insister sur la surveillance. Qu'il s'habitue.
Oui, il s'habitue à l'accoutumance et justement quand on s'habitue, on prend ce genre de psychotropes ou qui sont à usage médical au départ deviennent malheureusement des drogues, n'est-ce pas, docteur Smaïl, pour soulager telle ou telle douleur. Voilà, peut-être on reviendra sur encore, j'insiste sur la prévention. Les parents, j'aimerais qu'on dise un mot aussi pour
La prévention. Ça commence d'abord par la famille, madame.
Oui.
C'est la famille qui doit informer, qui doit discuter de ce problème-là avec ses enfants. Voilà, parce que c'est vrai qu'on fait le dépistage au milieu professionnel, mais ceux qui touchent la drogue, ils peuvent la toucher à un âge trop bas, d'accord, à 10 ans par exemple. Ils sont peut-être, ils font des fonctions journalières, ils n'ont pas besoin d'un dossier pour travailler, d'accord. Ça peut être des plombiers, ça peut être, avec tout le respect que je dois à toutes les spécialités. Donc, l'approche des quartiers, c'est ça ce qui est important. Parce que moi, quand je faisais ma levée de corps, je les voyais, le gendarme, quand il montrait, regardez là, ils sont en train de vendre. Et je les vois, c'est des femmes, c'est des jeunes, d'accord. La sensibilisation, l'approche par les quartiers, l'organisation des journées de sensibilisation dans les quartiers, surtout les quartiers chauds. Ça, c'est important.
Oui. Merci beaucoup, professeur Chirou. Un dernier appel, peut-être on va prendre, Samir, le standard explose, Alger Chaîne 3. Yes, nous contacte depuis Alger, alors... Yasser, allez, on vous a pas laissé attendre comme ça pour rien. On va prendre un dernier appel de Yasser. Yasser, oui, bonjour Yasser.
Alors, bonjour madame.
Oui, bonjour.
Alors, j'ai suivi votre émission, je vous en félicite. C'est un problème, c'est un fléau qui est en train de gangréner, comme vous l'avez si bien dit, la société. Moi qui suis un jeune médecin, on est confronté, notamment, et bien évidemment les professeurs savent très bien, notamment dans la saison estivale, à ces problèmes, et notamment l'impact sanitaire sur ça. Et je parle bien des ondes cardiaques par rapport à la toxicomanie injectable.
Merci. Vous êtes dans quel service, dites-nous, Yasser?
Je suis au service de pneumologie, et on reçoit énormément des malades qui présentent des embolies septiques au niveau pulmonaire.
Oui.
Et parfois, il y a l'errance diagnostique entre la cardio, la médecine infectieuse, parfois la chirurgie cardiaque. Et je vous assure, ces patients-là peinent à être pris en charge. Ouais. Personne, parfois, ne les prenne en charge. Et je sais bien de quoi je parle. Et même les professeurs savent bien de quoi je parle.
Ouais.
Ces patients, même le diagnostic en lui-même, ils trouvent pas une unité qui leur dédiée pour être diagnostiqué.
Oui.
Entre l'hémocultures, entre les coqueurs, tous les bilans qui doivent être faits.
Merci.
Et, oui.
Merci.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup.
Un dernier mot, s'il vous plaît.
Oui, Yassine, rapidement.
Juste, moi, ce que je propose, c'est de faire carrément une unité qui fait rassembler les spécialités, la médecine infectieuse, la chirurgie cardiaque, la cardiologie.
Oui. Comme disait professeur Amalou, c'est multidisciplinaire.
Merci
beaucoup. Merci Yasser. Merci pour votre témoignage en tant que jeune médecin. Merci de nous prêter attention. Peut-être un dernier mot. Allez, j'insiste sur la prévention, professeur Chirouat. Professeur Amalou avait parlé de l'éducation, etc., dans les écoles. Insister sur les programmes, justement, dédiés à la prévention contre les drogues. Vous, professeur Chirouat?
La prévention, elle est multidisciplinaire. Ça commence par le législateur. On encourage quand même l'Algérie. La loi, c'est une loi quand même, elle est venue à son temps. D'accord? L'approche des quartiers, la famille, la sensibilisation aussi de la famille pour intervenir, d'accord, ça c'est très important, et la multiplication des centres qui accueillent ces jeunes-là.
Merci beaucoup, merci à vous. Dernier mot, docteur Smaïl, vous en tant qu'infectiologue.
Donc, en dernier mot, donc la toxicomanie est un fléau social, donc très grave en progression en Algérie.
Il est pourvoyeur de maladies comme le VIH,
les hépatites
et l'hépatite C, l'hépatite B.
La réponse doit être multidisciplinaire et doit être rigoureuse pour endiguer ce fléau.
Oui, professeur Amalou,
moi je dirais informer, sensibiliser et éduquer. Voilà.
Voilà, c'est sur l'information, l'éducation. Peut-être on interpelle aussi les parents. Surveillez vos enfants, attention. Et l'oisiveté, mère de tous les vices. Il faut les mettre dans un processus de formation au lieu de les laisser comme ça. C'est l'oisiveté, mère de tous les vices. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui les canaliser et les... Pourquoi là, l'activité physique, elle détend aussi, elle éloigne nos jeunes de tous les vices. C'est pour ça que l'activité physique, aujourd'hui, on en fera une émission la semaine prochaine, peut-être, ou après. Hein. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à nos invités. Professeur Chirouat, professeur Amalou, docteur Smaïl d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous prêter attention. Merci pour votre fidélité. Merci à Jawida Zekat qui était à la réalisation. Samir à la console technique. Tahara à la régie dentaire. Céline Labou vous accompagne au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver le samedi prochain, même heure, même station, nos amis de 100 pour Science sont déjà là dans les studios pour vous accompagner jusqu'à midi. Soraya Bouatba et Souad Medja, j'aurai le plaisir de vous retrouver quant à moi samedi prochain, même heure, même station. Au revoir, bye bye.